Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir du 18 janvier, le ministère chargé des sports et le CSA lancent l'opération Sport au féminin. En fait, c'est une campagne qui existe depuis plusieurs années, dans laquelle le CSA s'est donné pour mission d'augmenter la visibilité des sportifs de haut niveau dans l'espace public et audiovisuel. Pour cette édition 2021, logiquement, la campagne sera axée sur l'impact de la crise sanitaire sur le sport au féminin. Il y aura aussi une campagne digitale avec le hashtag plus de sport au féminin, à laquelle je vais bien sûr participer avec Hand Papers. Et je pense que pour que les choses changent et avancent, on a besoin d'agir massivement, d'agir ensemble. Et je crois que c'est un truc que nous permettent vraiment les réseaux sociaux. Alors je le répète, le hashtag qu'on pourra toutes et toutes commencer à employer lundi, c'est le hashtag plus de sport au féminin. Salut, c'est Melvin, et bienvenue sur Hand Papers. Ici, on parle de handball, de femmes qui font du sport. Et aujourd'hui, je reçois Angélique Spencer, une femme qui entraîne en première division féminine de handball. Et oui, ça existe. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire une étude sociologique, mais simplement pour revenir sur son parcours. Parce qu'elle a été joueuse avant d'entraîner, et je pense que c'est une vraie leçon d'humilité que d'être capable de passer de l'autre côté. Alors, si vous aimez le podcast, pensez à vous abonner, et je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Angélique, tu es une des rares femmes qui entraîne une équipe de première division en LFH. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé de traiter sur le podcast. Mm-hmm. Tu as aussi une autre singularité, c'est que tu as été joueuse avant ça. Et ça, c'est vraiment, je pense, une belle richesse quand on est entraîneur. Donc, pour commencer déjà, j'ai envie de rappeler un petit peu ta carrière. Je sais que tu as notamment évolué à Fleury-les-Aubrais et à ICI Paris-Andes ou ICI Les Moulineaux, comme ça s'appelait à l'époque. Beaucoup de saisons là-bas, beaucoup de finales, pas toujours des titres. Tu as aussi évolué en équipe de France plusieurs années, tu étais une des joueuses phares, mais avec une carrière un peu marquée par les blessures. Du coup, toi, est-ce que tu peux déjà revenir sur ta carrière, te présenter de ce point de vue-là et compléter un peu ce résumé assez minimaliste que je viens de faire?
Non, mais écoute, déjà te remercier hein, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en discute un peu et ça fait du bien aussi avec ce qu'on vit de pouvoir discuter un peu et d'échanger sur soi un peu et ce qui se passe dans ce contexte un peu particulier. Donc, merci à toi. Minimaliste, non, je pense que tu as bien résumé l'affaire. Une longue, belle et riche carrière, voilà ce que je pourrais dire pour bien le résumer. Bon, moi, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Hein, j'ai la famille qui est dedans et j'ai suivi les traces de mon père qui a été athlète de haut niveau et j'ai tout de suite eu envie de faire ça. Donc c'est une carrière, on va dire, riche, des regrets peut-être un peu parce que oui, comme tu dis, il y a eu des petits bobos, notamment surtout sur la fin. Ouais. Donc je suis très satisfaite et contente du parcours que j'ai eu. Si j'avais pu avoir une compétition olympique dedans, j'aurais pas dit non. Mais voilà, comme tu dis, ma grosse blessure à l'épaule m'a freinée là-dedans. Pour repartir de tout ça, moi, je pense que je suis une ancienne joueuse professionnelle qui a pris son temps. J'ai fait étape par étape. Je suis passée par vraiment toutes les étapes du comité à la ligue au pôle, 3 ans de pôle, sortie du pôle, j'ai joué à N2. De la N2, je passe à la N1, de la N1 à la D2. À Alfortville, c'est surtout à Alfortville en D2 que j'ai compris que je voulais vraiment faire ça et que je sais depuis toute petite que je voulais faire ça, que j'avais envie d'aller en équipe de France, de gagner des choses, des médailles, des titres. Mais c'était en D2 où j'ai vraiment pris conscience que j'allais en faire mon métier à un moment donné. Je pense qu'il y a un homme qui a beaucoup compté là-dedans, c'est Philippe Germain, mon entraîneur de l'époque à Alfortville, qui m'a beaucoup donné de confiance, orienté là-dedans. Et vraiment, c'est lui qui a été le déclencheur, on va dire, de mes débuts à très haut niveau. Donc, évidemment que je ne pouvais pas rester en région parisienne parce que il n'y avait pas d'équipe à l'époque, aujourd'hui LFH, on appelle ça, donc en D1. Alfortville ayant déposé le bilan, il n'y avait vraiment plus moyen de rester dans la région. Moi, je suis quelqu'un de très familial, quelqu'un qui croit au confort, on va dire, de l'environnement, de l'entourage. Donc, je voulais pas forcément partir de Paris, donc je voulais pas aller trop loin non plus. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'est Fleury qui s'est positionné. Mm-hmm. Et Voilà, j'ai pas hésité parce que on a réussi à me convaincre que c'était pas loin de Paris surtout, et ça c'était un truc de très très important pour moi, c'était quelque chose de très important pour moi. Voilà, donc 2 années où bah, j'ai appris mon métier parce que c'était la première fois où vraiment j'étais livrée à moi-même, même si c'était pas loin, j'étais seule, hein. Mes parents étaient restés sur la région parisienne, ma famille était restée sur la région parisienne. Donc c'est là où j'ai vraiment appris à me débrouiller seule, à commencer ma vie de jeune femme, quoi, de sportive de haut niveau. Donc c'est vrai que j'y suis restée 2 ans, c'est ce qui m'a ouvert les portes de l'équipe de France. C'est là où j'ai eu mes premières sélections. Alors pas forcément au poste auquel j'ai fini, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma carrière en D1 au poste d'ailier gauche, parce que j'étais pas dans le contexte international, j'étais pas très grande. Et bon, tu connais un peu mon passé, je suis pas non plus, j'ai jamais été un grand défenseur. Donc c'est vrai que voilà, il a fallu que je tire l'épingle de mon jeu en faisant parler mes qualités de lecture de jeu, ma relation avec mes coéquipières, notamment avec le pivot. Voilà, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, le tir au travers. J'aimais tout ce côté un peu technique que peut avoir un peu ce côté réunionnais. Voilà. Sans vanter, hein, c'est pas ce que je dis,
Non,
attention,
pas de
mais voilà,
problème.
je trouve qu'on a cette petite particularité-là, et voilà, c'est ce qui m'a peut-être fait, voilà, qui a peut-être dégagé un peu plus mon jeu des autres à l'époque. Et c'est vrai qu'avec Olivier Krombholz, il m'avait dit que ma place, elle n'était pas à l'aile gauche, et plutôt derrière, quoi, sur le jeu à l'époque, derrière. Mais en D2, j'étais déjà arrière, c'est vrai que. Arriver en D1, c'était compliqué pour moi au début parce qu'il y avait notamment la condition physique. J'étais pas prête physiquement aussi à être tout de suite arrière, demi-centre. Il fallait que je me forge un corps d'athlète, etc. Donc c'est vrai que ça a mis un an et demi à se faire. Et à la sortie de ça, c'est vrai que à l'époque ici, les Moulineaux, ça s'appelait, et remonter en D1. Et j'ai pas hésité une seconde quand à l'époque Arnaud m'a contacté pour revenir chez moi, là où je me sens bien, le mieux, entouré de ma famille, de mes proches. Je sentais vraiment que j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la capitale au niveau du handball féminin, et y être une actrice principale, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Après, tu connais la suite. 10 ans,
C'est vrai.
j'ai jamais quitté Paris, ici Paris. En tout cas, j'ai eu 2 clubs en D1, Fleury et Paris. Et après, voilà, parsemé de réussite, d'échec, parce que c'est vrai que le club a connu aussi une période difficile en 2010 où on est descendu en 2009-2010, on est descendu en D2. Donc même là, à ce moment-là, j'aurais pu quitter le navire, partir. Mais non, j'avais vraiment cette fidélité. J'ai vraiment aimé ce club et ce que j'en ai appris. J'ai grandi avec le club. Voilà, il s'est structuré. On s'est structuré aussi ensemble. Donc voilà, il y a peut-être sur la fin de ma carrière avec ici des regrets parce que j'aurais aimé vraiment apporter autre chose à la sortie de ma carrière de joueuse. J'aurais vraiment voulu faire partie du club, des fondations, de tout ça. Bon, ça s'est pas fait pour X raisons, mais dans son ensemble, j'ai que des bons souvenirs à Paris. Voilà, si je peux résumer tout ça.
Super. Et du coup, est-ce que tu considères que tu as dû arrêter ta carrière du coup à cause de tes blessures? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais décidé ou finalement qui s'est un peu forcé, tu vois, à toi?
Ben, c'est un mix des deux en fait. Je voulais pas arrêter sur une blessure parce que je suis une compétitrice, je le suis toujours, et je voulais vraiment aller au bout des choses. Mais ma carrière en équipe de France, elle s'arrête comme ça parce que ben, l'accumulation des bobos fait que ben, y a d'autres joueuses aussi qui poussent derrière, il y a des jeunes qui arrivent, etc. Donc ça c'était voilà, c'était ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Mais par contre, ma carrière en club, je me voyais encore peut-être 2 3 ans la faire, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas restée déjà d'une ici, parce que ça devenait peut-être le niveau d'exigence devenait peut-être trop important pour moi à ce niveau-là de donner plus d'efforts. Donc je me suis orientée vers la Stella en D2, qui avait un vrai projet à ce moment-là de reconversion pour moi. Mais avant ça, il fallait que je les aide un peu sportivement. C'est vrai que j'ai pas pu les aider sportivement parce que je me suis retrouvée encore plus blessée que quand je suis arrivée, quand j'ai quitté Paris. Donc ça s'est fait, on va dire, je me suis résignée, quoi, un peu. Je me suis dit que avec une structure un peu moins cadrée, parce que voilà, Saint-Maur, c'était pas encore structuré comme ça aujourd'hui. Je voyais pas comment j'allais pouvoir me soigner seule, avoir une préparation avec quelqu'un derrière moi qui me voilà. J'avais pas d'Arthur Yapo à l'époque avec moi, donc voilà, j'étais moins bien accompagnée. Du coup, voilà, je me suis un peu résignée. Je me suis dit que c'était le moment de se dire que voilà, c'était terminé pour moi et qu'il fallait peut-être penser à autre chose.
Ok, ça marche. Et sur le plan sportif, juste pour revenir un peu sur les résultats que tu as eus pendant ta carrière, comment est-ce que tu as géré, toi, la défaite? Tu vois, parce que on en a pas, enfin, j'en ai parlé un petit peu au début. J'ai envie de voir un peu quelle était ta philosophie, toi, vis-à-vis de gagner, perdre en tant que joueuse. Comment est-ce que tu le vivais, ça? Notamment des finales.
Alors moi j'avais un gros souci au-delà des finales. Déjà, juste un match perdu, pour moi, c'était une catastrophe, quoi. C'était impossible de pouvoir perdre. Alors, tout est relatif, hein. Des fois, tu jouais contre le grand Besançon, le grand Metz, c'était compliqué. Mais par contre, tout ce qui se rapprochait à nous en termes de niveau de jeu, etc., j'avais du mal à accepter ça. Je suis quelqu'un, encore une fois, de très perfectionniste et compétitrice, et je supportais mal la défaite. Il fallait vite qu'il y ait un autre match qui arrive pour passer à autre chose, parce que bon, avant on jouait pas tous les 3 jours comme ça, on jouait toutes les semaines, une fois par semaine, et la semaine elle était super longue, quoi. Moi j'avais du mal à me remettre, j'arrêtais pas de penser au match, de comprendre pourquoi, même si que j'avais bien joué ou mal joué, je voulais comprendre pourquoi il y avait eu le naufrage. Voilà, j'avais vraiment du mal à passer vite à autre chose. Bon, les finales, bon, autant te dire que c'était multiplié par 10, du coup, encore plus quand c'est des finales qui étaient ouvertes, abordables. Je crois que le pire souvenir, c'est la finale de la Coupe d'Europe, la Challenge Cup avec Paris 4, avec ici Paris à l'époque, où on gagne en Suède, pas largement, mais avec un petit matelas confortable, et on perd chez nous d'un but, alors que on se voyait trop soulever la coupe, en fait, du coup. Ça, j'ai vraiment, vraiment mal vécu. Et après, ma seule solution pour me relever tout ça, c'était de me dire que d'être encore meilleur le match suivant et de pouvoir apporter la meilleure prestation possible individuellement pour que le groupe puisse gagner. Mais l'enchaînement, là, surtout l'année où on a enchaîné les finales et qu'on les a perdues, quatre, hein, quatre finales jouées, quatre finales perdues, c'est vrai que ça a été un moment dur, mais un moment qui m'a fait grandir aussi, qui m'a fait prendre conscience que ben, il n'y a jamais rien qui est acquis, qu'il faut toujours travailler, plus, encore, toujours. Et voilà, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer aujourd'hui dans mon nouveau métier. Et voilà, moi j'avais du mal avec les défaites, j'ai toujours du mal d'ailleurs, mais avec un autre rôle, mais voilà, c'est comme ça un peu que je le vivais, quoi.
Et bon, comme j'aime pas parler que des défaites et que je pense que c'est important aussi de dire comment est-ce que tu dealais un peu, tu vois, avec la réussite aussi. Comment, quel rapport toi t'entretenais avec ça, tu vois, parce que dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup ce rapport un peu ah, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers, passe à autre chose justement, et va chercher le prochain. Comment est-ce que c'était quoi ton rapport toi avec ça?
Ben, c'est pareil, je suis quelqu'un de très. Enfin, je pense, hein, peut-être j'intériorise beaucoup. Donc, gagner un match pour moi, c'était. Forcément, il y a un soulagement de folie quand tu gagnes un match. En plus, tu gagnais avec les. À l'époque, on avait un groupe génial. Donc, c'est encore mieux de gagner avec les copines, avec le groupe qui vit bien. Donc, moi, j'avais toujours tendance à être sur mes gardes et dire, ouais, on a gagné, c'est bien, mais il y en a un prochain, quoi. Le plus dur, je pense, et tu le sais autant que moi, c'est de pouvoir être dans la régularité, continuer à performer toujours et encore. C'est pouvoir répéter les efforts, pouvoir répéter voilà, les belles prestations. Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc moi, ce qui m'importait, c'était de pouvoir être irrégulière avec le collectif et être régulière individuellement. Donc je pense que voilà, j'étais quelqu'un qui. Peut-être que parfois j'aurais eu besoin d'extérioriser un peu plus mon côté, un peu quand tu marques un but, quand tu es contente à la fin du match. Moi, j'étais un peu plus réservée par rapport aux autres. Je pense que j'étais quelqu'un qui gardait un peu tout pour moi. Et c'était une fois peut-être rentrée à la maison où voilà, j'avais un ouf de soulagement à dire, putain, ouais, putain, on a gagné, c'est cool, t'as fait un bon match en plus. Donc, mais bon, il y en a un autre qui arrive, il faut pouvoir répéter.
Ça marche. Pendant ta carrière, est-ce que tu avais Donc, sur la fin, donc, tu disais que tu avais eu pas mal de blessures. Donc, j'imagine qu'à partir de là, tu commençais à envisager ce que tu voulais faire ensuite. Et donc, à quel moment est-ce que tu as envisagé cette trajectoire-là pour ton après-carrière? Et surtout, comment tu t'es formée, avec qui? Enfin, voilà, comment ça s'est passé, la transition?
Ben, honnêtement, ça s'est fait, si je dis pas trop de bêtises, sur l'année 2014, je pense, où c'est vraiment joué à ce moment-là, parce que au club d'ici, il y avait eu un petit remaniement, et notamment sur le centre de formation. Et moi, on m'avait proposé, avec les dirigeants de l'époque, de pouvoir avoir le pied et toujours en tant que joueuse, mais mon planning avait été adapté, c'est-à-dire que je faisais pas 9 à 10 entraînements par semaine, mais j'en faisais peut-être plus que 8 à 6, quoi, par rapport à mes pathologies. Et par contre, d'avoir un temps un peu plus conséquent sur le suivi socio-professionnel des joueuses du centre de formation.
Ok.
Donc l'idée pour moi, si tu veux, c'était de, à la sortie de ma carrière de joueuse, on s'était donné encore un an, de pouvoir mettre un pied dans le staff, centre de formation. Voilà ce qui était prévu pour moi. Donc si tu veux, à ce moment-là, j'étais assez dans ma tête, c'était assez clair que je finissais la saison et l'année d'après, j'étais entre guillemets embauchée au club pour mettre ma patte dans le centre au niveau du centre de formation, soit en tant qu'entraîneur adjoint, soit en tant qu'entraîneur principal, soit voilà, et suivre du coup les athlètes dans le suivi socio-professionnel, etc., etc. Donc ça s'est fait vraiment dans ma tête à ce moment-là. J'ai pour le coup eu la chance de pouvoir intégrer tous les mercredis le pôle Île-de-France, où ben, d'ailleurs je te croisais de temps en
C'est vrai.
temps avec certaines d'autres copines à toi. Donc voilà, c'était un premier rapport à l'entraînement en tant qu'entraîneur pour moi. Alors bien sûr en retrait, hein, mais là, c'était vraiment la première fois que je rentrais dans un staff, pôle, on va dire. Ouais, c'est ce qui s'est passé, staff pôle avec Erika Ganini. À l'époque, il y avait Benji et Bro, voilà, il y avait Pablo aussi qui de temps en temps venait encore un petit peu. Donc, non, j'ai eu la chance de commencer à apprendre mon métier à ce moment-là avec des gens très compétents. Et à la suite de ça, bah, comme je t'ai dit, ça n'a pas pu se faire avec ICI Paris, voilà, pour des raisons, on va dire, d'aspects peut-être budgétaires, hein, qui n'ont pas pu se faire. Et c'est là où j'ai moi décidé de me donner un nouveau défi. Alors, c'était pas ma motivation de jouer, elle était toujours présente. Je savais que j'avais des limites au niveau de mon physique, de mes pathologies. Mais l'idée vraiment et le deal avec Saint-Maur, c'était que je puisse au moins faire 2 ans. Et derrière, à la suite de ça, on n'avait pas défini exactement le rôle que j'aurais, mais que je signe un contrat, on va dire en CDI, pour assurer moi mon avenir professionnel. Mais en tout cas dans l'accompagnement et la structure et aider le club dans sa structuration à Saint-Maur. L'idée, c'est vraiment de retrouver le haut niveau à Saint-Maur. Donc moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de passer de l'autre côté, quoi.
Ok,
Voilà.
ça marche. Bah déjà, ce qui est intéressant, je vois que tu parles vraiment de transition. En fait, tu as vraiment fait signé un dernier contrat qui te permettait de faire une transition où finalement tu jouais encore au handball par envie, mais aussi parce que finalement il faut aussi avoir de quoi s'assurer de ne pas être dans la galère, tout simplement.
Exactement, exactement. Et à Saint-Maur d'ailleurs, surtout ma deuxième année là, quand bon, ça n'allait plus du tout, en plus avec les dirigeants de l'époque, ça allait encore moins. C'est là que la Ligue Île-de-France de handball m'a proposé aussi d'être un peu plus présente sur le pôle Île-de-France. Donc c'est ce qui m'a permis pendant 2 ans aussi derrière de pouvoir cumuler et mon début de carrière d'entraîneur professionnel à Saint-Maur, mais aussi entraîneur adjoint avec Erika Ganini au pôle. Donc ça, j'ai fait pendant 2 ans. Et forcément, quand on entraîne des jeunes athlètes et qu'après, le soir et le week-end, tu manages des seniors, c'est deux, pour moi, métiers différents, mais ça t'apprend quand même à savoir peut-être gérer un peu divers comportements, diverses attitudes. Parce que, bon, pareil, tu connais très bien une athlète au pôle, comment ça se construit, c'est tout jeune, c'est en construction par rapport à une joueuse senior qui est déjà aguerrie, quoi. Donc,
Ouais, ok.
j'ai beaucoup appris à ce moment-là.
Ça marche. Et donc, du coup, toi, pour faire un peu, tu vois, le pont entre ta carrière et du coup, le moment où tu changeais de métier, quelle relation, toi, tu avais avec tes entraîneurs? Tout à l'heure, tu as évoqué un certain Philippe Germain. Quelle relation entraîneur-entraîné tu avais? Et du coup, quelle relation tu as voulu développer, justement, en tant qu'entraîneur?
Eh ben, j'étais sur mes entraîneurs de club, ça a toujours été. J'ai toujours été proche de mes coachs, notamment quand j'étais un peu plus jeune, là, quand j'ai commencé. Puis Germain, c'était un peu comme un père spirituel, hein, quelqu'un qui idolâtre un peu, parce que je connaissais aussi sa carrière de joueur avant et tout. Donc, c'est quelqu'un ouais, que j'avais beaucoup d'admiration. Voilà. Et à Fleury, Daniel Villain, pareil, c'est quelqu'un qui m'insufflait beaucoup de confiance, qui me prenait un peu sous son aile. Donc, c'est là où je veux dire où j'ai peut-être pris un peu plus mon envol et où je me suis un peu plus, comment dire, débrouillée seule et que j'ai pris un peu les rênes. C'est quand je suis arrivée à Paris, 92, ici Paris, parce que Arnaud, c'était un jeune entraîneur. Philippe Germain était un peu plus âgé, Daniel un peu plus âgé. C'est vrai qu'Arnaud était beaucoup plus jeune. Donc, je dirais pas que c'est plus nous qui avons accompagné Arnaud dans son développement d'entraîneur, mais je pense un peu quand même, parce qu'on est arrivé avec. Il y avait une pléiade internationale à ce moment-là qui est arrivée, hein, Herbrecht, Baudouin, etc. Donc, c'est vrai que peut-être on lui a donné aussi un coup de pouce de ce côté-là. Mais pareil, ça a été une relation très proche, je trouve. Je suis devenue la capitaine pendant 6 ans après, derrière. Donc, il y avait une vraie confiance, je pense, mutuelle. Ça, c'est une certitude. Et du coup, j'ai toujours aimé être leader. Voilà. Même si je suis quelqu'un de réservé, introverti, je trouve que sur un terrain de handball, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu, justement, différente, qui se lâche un peu, qui arrive à extérioriser des choses. Et j'aime ce côté où on me donne un peu les clés de la maison, du camion, qu'on me responsabilise beaucoup sur le jeu, etc. Donc, avec Arnaud, c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire un peu. Pas forcément, j'y arrive, hein, c'est pas que j'y arrive, hein, mais c'est ce que j'essaie d'inculquer aux filles, c'est que. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut des leaders. Alors, tu as plusieurs sortes de leaders, hein, mais c'est vrai que pour moi, avoir un leader de jeu, c'est essentiel. Avoir deux, trois leaders, ça peut être de vestiaire, ça peut être. Voilà, il y a plusieurs sortes, mais voilà, j'essaie d'instaurer ça et je me dis que de toute façon, à ce niveau-là, s'il n'y a pas au moins un leader ou deux, on a du mal à performer, on a du mal à être régulière, à avoir des exigences élevées. Voilà, donc moi, c'est ce que j'essaie de communiquer aux filles que j'entraîne aujourd'hui, c'est ce que j'essayais de faire avec les jeunes du pôle. Voilà, ça, je trouve ça très important.
Ok. Et tu sais, moi, je trouve le rôle d'entraîneur, enfin, je trouve c'est quand même fort de passer de l'autre côté parce que le rôle de l'entraîneur, c'est quand même, tu sais, quand on est joueuse, on peut passer des après-midi dans le vestiaire à parler de l'entraîneur, on peut, tu vois. Et donc, je me dis, tu vois, moi, c'est un rôle qui m'inspire. Enfin, qui m'inspire beaucoup de questions vraiment en tant que joueuse parce que tu vois, autant il y a des fois où je me dis dans la relation, waouh, c'est génial, franchement. Si un jour je voulais être coach, bah ça, je le ferais absolument. Par contre, si je veux aussi faire un livre où je dirais comment ne pas entraîner, je mettrais ça dedans dans mon top 5, tu vois. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu avais des trucs comme ça en tête vraiment à ne pas reproduire est-ce que tu avais une ligne de conduite que tu avais imaginée Et peut-être aussi que quand on est joueuse, finalement, c'est facile de parler, mais quand on devient bah, finalement entraîneur, ça change un peu tout. Comment est-ce que tu as vécu ça, ce passage-là aussi?
Ben, tu vois, là, je suis en plein dedans, donc c'est sûr que. Comme tu dis, évidemment qu'on a déjà passé des heures après les matchs, après l'entraînement, à dire ceci, cela, ouais, mais t'as vu, il a fait ci, il a fait ça. Évidemment que oui. Donc, déjà, je me suis toujours dit. Après, il y a la relation entraîneur-entraîné, c'est-à-dire que moi, je suis une femme et j'ai été entraînée que par des hommes à très haut niveau. Donc, déjà, il y a cette proximité-là qui n'est pas la même, je trouve, que quand c'est une femme qui t'entraîne. On va dire que. Moi, il y a des choses que je voulais pas reproduire dans la manière de communiquer avec une joueuse. Déjà, je trouve que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais un homme, il est peut-être un peu plus brut. Il va pas y aller par quatre chemins. Il va être un peu plus brut et sans forcément t'expliquer le pourquoi du comment. Et on va t'aboyer dessus sans te faire comprendre que. Moi, ce que je voulais pas reproduire, c'était ça. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais dire à une joueuse où je la réprimande, j'aime lui expliquer pourquoi je le fais. Et j'ai envie qu'elles comprennent pourquoi. Parce que je me suis rendu compte, en tout cas de mon point de vue et de mon époque, que quand on le faisait, et ça m'est arrivé, j'avais du mal à comprendre. Du coup, quand j'ai du mal à comprendre, je me renferme. Et quand je me renferme, je ne suis pas efficace. Donc, j'avais besoin de comprendre et j'étais pas forcément quelqu'un, quand j'étais joueuse qui, quand je me renfermais, j'arrivais pas à aller vers la personne. C'est-à-dire que autant je pouvais être proche de mon coach, autant quand je sais qu'il avait un peu une dent contre moi, j'arrivais plus à aller vers lui. J'arrivais plus à aller vers lui. Il fallait que je sois aidée par quelqu'un, une joueuse, une coéquipière, ou l'adjoint, ou le préparateur physique, ou qui tu veux. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'essaie de pas reproduire, même si je n'y arrive pas tout le temps. Hein. Faut pas se mentir. Mais en tout cas, non, j'essaie de, encore une fois, d'être plus par rapport à ce que j'apprends et ce que j'ai appris dans la bienveillance avec les filles. Alors, je sais que ça suffit pas à ce niveau-là d'être dans la bienveillance tout le temps. Parfois, il faut savoir élever le ton, il faut savoir dire quand ça va pas, il faut savoir plein de choses. Mais je pars toujours du principe que crier pour crier, c'est pas non plus la solution. Et c'est pour ça que j'essaie à chaque fois que quand il y a quelque chose qui me convient pas ou qui m'énerve un peu, de l'expliquer et faire en sorte que la personne en face de moi le comprenne, qu'elle adhère et qu'après on trouve les solutions ensemble. Mais bon, encore une fois, c'est un travail qui est compliqué, hein, c'est pas évident. Ça dépend du rapport que tu as avec la personne à la base, du temps que tu lui donnes, hein, parce que voilà, c'est pas évident. Tu as des cadres, tu as des joueuses un peu moins aguerries, voilà, c'est vraiment différent d'athlète à athlète. Mais c'est pas évident. Une fois qu'on est de l'autre côté, c'est sûr qu'on aimerait faire plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on n'aimerait pas faire non plus, mais que je fais quand même.
Ouais,
Tu vois?
ok.
Voilà.
Parce que là, tu parlais justement d'une notion qui est très intéressante et importante pour moi, c'est la notion de bienveillance. C'est vrai que souvent, on dit que dans le haut niveau, on n'a pas forcément le temps pour ça. On nous dit souvent d'arrêter de penser, d'arrêter d'employer nos émotions à tout va et qu'il faut, il faut gagner et c'est tout. Et finalement, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait, moi. Tu vois, je ne suis pas sûre que le fait d'être bienveillant empêche l'épanouissement et la capacité à gagner, et bien au contraire. Je pense que c'est, enfin, j'imagine que c'est très complexe, tu vois, d'accompagner finalement chaque joueuse, parce qu'un collectif, c'est large. Donc vraiment
C'est
accompagner chaque
ça.
joueuse et tout, ça doit être vraiment complexe. Mais enfin voilà, moi je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte, parce que sinon, je pense que ça peut être aussi complexe pour une équipe de laisser des gens un peu de côté, tu vois. Enfin, donc
Bien sûr.
ouais.
Mais c'est ce qu'on a tendance à dire pour les joueuses blessées. De longue date, tu vois, enfin, moi je l'ai vécu beaucoup, encore plus avant. Aujourd'hui, je sais pas toi comment ça se passe, mais moi je sais qu'à mon époque, quand t'es blessé, c'est pas qu'on s'en fout de toi, mais t'es pas la priorité, quoi. Donc peu importe comment tu t'appelles, ce que t'as fait, t'es la meilleure joueuse du monde ou pas, t'es blessé, t'es indisponible, donc t'es entre les mains du corps médical. Mais bon, c'est vrai que par moment, moi c'est aussi quelque chose que j'ai pas forcément bien vécu, mais je l'ai pas forcément dit à ce moment-là, j'ai pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie aujourd'hui de modifier tout un petit peu. Je sais pas si j'y arrive encore une fois, mais les joueuses blessées, on essaie de les impliquer dans le projet toujours, même si elles sont là que une semaine dans l'année parce qu'elles ont une grosse blessure. Voilà, je trouve ça aussi important de pouvoir garder tout le monde en haleine, d'impliquer tout le monde. Je trouve que ça aussi, c'est important.
Ouais, bien sûr, parce que je pense que même si après chacune, moi personnellement, comment dire, moi je trouve de l'énergie vraiment intérieurement, et puis même les filles sont hyper géniales. Donc pour moi ça se passe bien, mais c'est vrai que des fois c'est normal d'avoir des espèces de chutes, et c'est bien de se sentir accompagnée, entourée. Et ouais, je pense que ça
Bien sûr.
c'est ouais, c'est vraiment précieux. Et bon, comme tu l'as dit, c'est vrai que la bienveillance ça suffit pas, parce que dans le haut niveau il faut quand même faire du résultat. Et c'est vrai que toi finalement, pour ta transition, ton passage de joueuse à entraîneur, t'étais donc à Saint-Maur et t'as tout de suite gagné, non? Attends, vous êtes tout de suite monté en...
Ouais. Ben oui, en fait, le club est descendu en N1. J'ai eu la chance sur ma première année où en plus j'étais entre le pôle et le club, j'étais voilà un peu partout, d'avoir un groupe compétitif, hein, je vais pas mentir, il y avait vraiment un groupe pour remonter, hein, ça c'était quelque chose qui était voulu. Mais c'est vrai qu'on a fait une saison quasi parfaite, on est remonté et on est allé en D2 avec une équipe presque pas remaniée. On a juste renforcé un petit peu en se disant que de toute façon on jouait le maintien et pas autre chose. Donc c'est aussi un objectif qu'on avait réussi à faire. Et voilà, petit à petit, j'aime bien, je pense que tu l'as compris, même dans mon parcours de joueuse, y aller petit à petit, pas se brûler les ailes. Je pense que On le voit assez, il y en a qui veulent aller beaucoup trop vite et tout changer et ça fonctionne pas. Et donc moi, je veux vraiment faire étape par étape. Et c'est vrai qu'avec Saint-Maur, sur la deuxième année aussi, avant le Covid, là, on était bien parti pour... Alors, on n'était pas vape, hein, mais l'idée, c'était de le récupérer ben, cette saison, là où elles le sont aujourd'hui. Mais c'était de faire la meilleure saison possible pour prétendre à déposer ce statut vape et être une équipe parisienne qui va retoucher un peu au très haut niveau. Donc moi, je suis plutôt contente d'avoir laissé le club sous une pente ascendante. Voilà, après j'ai décidé autre chose, mais c'est vrai que mes 3 ans à Saint-Maur, elles m'ont permis, moi, encore une fois, d'apprendre mon métier. Je me suis détachée du pôle sur la dernière année parce que ça devenait incompatible. À un moment donné, quand tu as des exigences élevées avec un club qui est quasi professionnel à 100%, ça devenait compliqué. Donc moi, j'ai décidé de quitter le pôle. Mais entre le pôle et le club, c'est vrai que j'avais pris énormément de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi qu'à un moment donné, il était temps de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs et d'aller sur une nouvelle aventure, un nouveau challenge, quoi.
Ouais, et donc tu as dû vivre cette transition au sortir du
Ouais.
confinement. Et donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe du coup depuis que tu es arrivé à Plan de Cuques dans le sud?
Ben écoute, on n'a pas été épargné par le Covid déjà. Donc c'est sûr qu'en termes de transition, déjà j'ai été un peu, mais comme tout le monde, je suis pas la seule, hein, entre les joueuses qui ont quitté leur club pendant le confinement et tout. Moi, ça m'a peiné un peu de quitter le club de la Stella comme ça. J'aurais aimé qu'on aille au bout des choses, on n'a pas pu, mais bon, ça c'est la faute de personne. Et derrière, ben là t'arrives en terrain inconnu, donc c'est plus à toi quand tu recrutes à Saint-Maur, t'es là depuis 3 ans. À intégrer, mais c'est plus à toi de t'intégrer. Du coup, l'intégration qui s'est bien passée, mais pas facile parce que un groupe qui se connaît depuis longtemps, qui a des habitudes ensemble, qui a un fonctionnement depuis un moment qui est le même. Donc, moi, j'ai dû aussi casser ça parce que je suis arrivée avec mon fonctionnement, avec mes idées, mais sans tout non plus changer. Je voulais pas tout changer non plus. Donc, je voulais garder ce qui fonctionnait, mais non, c'est une saison difficile. C'est une saison difficile pour une première expérience, on va dire, à ce niveau-là. Parce que en plus, on est une équipe, on est une petite équipe du championnat. On n'est pas, voilà, on est une équipe qui doit se battre pour survivre en Division 1. Donc, c'est pas évident d'aujourd'hui de pouvoir faire passer les bons messages aux filles. Il y en a, c'est pour elles la première fois qu'elles sont pro, elles ont 30 ans, tu vois. Donc, moi, je sais qu'on apprend ça quand on est jeune, quoi, quand on a 17 ans, 18 ans, c'est là que ça se fait. Et c'est vrai que casser ces habitudes-là un peu, leur faire comprendre que c'est un vrai métier, que c'est pas, voilà, c'est plus, on joue avec les copines
Et on est
et
content d'être
voilà, on
là.
rentre à la maison. Voilà, c'est vraiment, on veut de la perf, quoi, on veut des résultats, on a des objectifs, on a un club qui essaie de se structurer, qui se structure, qui fait tout pour en tout cas, qui met les joueuses dans le confort. Donc tout ce côté-là, il n'est pas évident. Je pense que si on avait une saison normale, peut-être que ce serait allé plus vite. Mais entre ces coupures de Covid, ces coupures de on joue pas, il y a 2 cas positifs, machin, c'est vrai que c'est pas facile. Mais néanmoins, je pense que les habitudes ont changé. Je pense que les filles, elles prennent petit à petit conscience que le fait d'être en D1, ça suffit plus. Y être, c'est bien, y rester, c'est mieux. Donc, mais pour ça, il faut, voilà, fournir beaucoup plus d'efforts, de travail, ce dont elles n'ont pas l'habitude au final. Parce que qui, de toute façon, a eu l'habitude de jouer tous les 2, 3 jours quand tu viens de monter en D1? Personne, je
C'est
pense. Donc,
ça.
c'est ça qui n'est pas facile. Et en même temps, moi, je ne suis pas du genre à me cacher derrière tout ça. J'aime bien me dire que c'est un vrai challenge. Voilà.
Maintenant, de la part des auditeurs et des auditrices du podcast. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par une femme plutôt que par un homme? Alors, je sais, toi, tu l'as pas forcément été, je sais pas, mais
Ben moi, je l'ai, enfin, j'ai eu un entraîneur féminin au pôle. Après, j'ai eu que des hommes, mais je dirais que une femme, peut-être qu'elle sera un peu plus compréhensive. Elle va peut-être comprendre un peu mieux les problématiques liées à la vie personnelle de la joueuse, c'est-à-dire voilà, Nous, on a quelque chose qui nous arrive tous les mois. Donc, peut-être que ça, les garçons, ils ont du mal à le capter, tu vois. Et j'en parle un peu avec mon adjoint. Et il me dit, c'est vrai que tu sais que quand j'étais avec mon ancien entraîneur numéro 1, Greg Capel, j'y pensais pas à ça. Parce que souvent, on dit, alors c'est pas attention, c'est pas misogyne ou quoi. Ouais, elle est chiante, elle a ses règles aujourd'hui. Mais pour de vrai, les garçons, ils se rendent pas compte. Je pense que c'est un vrai problème pour nous. Ça nous arrive encore plus quand c'est des jeunes joueuses, parce que quand tu prends un peu d'expérience, tu vieillis, c'est pas la même chose. Mais quand tu as des jeunes joueuses qui ont leurs règles sur une, je sais pas, avant un match important, etc., c'est un vrai problème par moment. Et je pense que ça, ils ont peut-être pas cette approche-là que nous, on peut avoir, où on est un peu plus indulgente vis-à-vis de ça. Moi, je sais que s'il y a une joueuse demain qui arrive pliée en deux à l'entraînement, qui me dit je peux pas parce que j'ai des douleurs partout, je sais que je vais pas prendre de risque avec elle. Voilà, je pense que peut-être c'est cette chose-là, cette approche-là qu'on a en plus, et ce côté un peu maternel, hein, vis-à-vis des plus jeunes. Je pense que c'est la petite chose qu'on a en plus. Et on dira peut-être que ouais, les garçons, c'est un peu plus brut, ça rentre dedans, mais c'est aussi quelque chose dont on a besoin. C'est aussi quelque chose dont on a besoin. Donc voilà, c'est. Je dirais que la seule chose qu'on a en plus, oui, c'est peut-être comprendre un peu plus ce qui se passe dans le corps féminin, quoi.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais recevoir un préparateur physique qui fait une thèse là-dessus et donc quel exercice on peut faire pour adapter selon la période du cycle menstruel.
C'est très intéressant.
J'ai très hâte de le faire cet épisode. Alors, du coup, ensuite, une autre question. Comment fais-tu pour te faire respecter dans une équipe quand tu y arrives?
Ouais, ça, c'est complexe parce que autant je pense que quand j'ai débuté à Saint-Maur, comme j'étais déjà dans la structure, c'était assez facile. De par mon passé, etc., c'était assez simple. Et en même temps, quand je suis arrivée à Plan de Cuques, c'est un peu plus complexe parce que évidemment, on attend beaucoup, beaucoup de toi. Mais je crois que d'entrée, je pense que j'ai instauré déjà un climat serein dans l'entraînement. Je suis pas arrivée en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense que j'ai laissé aussi du champ sur ce qui se passait bien. Donc, j'ai pas encore une fois voulu tout changer. Donc, peut-être que ça a été aussi bien accepté parce que j'aurais pu arriver et dire ça. Ça marche pas, ça, on enlève tout, on recommence tout. C'est pas ce que j'ai fait, donc je pense que ça a été une chose peut-être bénéfique pour moi. Après, forcément, je pense qu'il y a toujours cette histoire de CV, de passé, qui fait qu'il y a peut-être ce respect automatique, sans conviction, mais peut-être que ça joue aussi. Et puis après, non, je pense que le message que je fais passer, encore une fois, c'est. Peut-être que je m'y attelle trop, hein, mais que le travail, il n'y a que ça qui paie, et que sans travail, on ne peut pas arriver à grand-chose. Mais aujourd'hui, je pense que je suis respectée par mes joueuses, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça a été peut-être, oui, plus complexe d'arriver dans une structure qu'on ne connaît pas, avec des joueuses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas trop comment on va être reçu. Mais aujourd'hui, je pense que. Je suis respectée et comment on fait? Ben, je pense qu'il faut être soi-même au départ de toute façon. Hein. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, tout simplement.
Et d'ailleurs,
Hein.
ça a complété une question, là, ce que tu viens de dire. C'était, est-ce que tu arrives à être toi-même, du coup, dans ton équipe, ou est-ce que tu joues, enfin, moi, je complète, du coup, est-ce que tu joues, j'ai pas envie de dire un personnage, mais tu sais, des fois, on a l'impression que les entraîneurs prennent une certaine distance vis-à-vis des joueurs et des joueuses, parce que, voilà, il faut pas être ami-ami, ou, enfin, il y a cette idée un peu reçue, où on peut pas être ami-ami, où on peut pas être trop proche. Donc, est-ce que toi, t'arrives à être toi-même, ou tu prends quand même cette distance-là?
Je pense que non, je ne pense pas jouer de jeu ou de rôle. Je pense vraiment être moi-même. Je suis trop, encore une fois, quand je veux quelque chose, j'aime bien que ce soit bien fait. Du coup, je suis un peu perfectionniste et je pense être vraiment moi-même. Après, j'ai déjà entraîné des amis à moi. Hein. À Saint-Maur, j'avais ma meilleure amie dans l'équipe. Donc, c'était pas simple, mais je pense que justement, cette distance-là, je la mettais à l'entraînement. Je veux dire, il n'y avait pas d'amis à l'entraînement, quoi. C'est quelque chose que je pense que j'arrive à faire facilement aujourd'hui. Et non, je pense vraiment que je suis moi-même et je sais que j'ai des progrès à faire surtout la valorisation. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à faire un peu plus, sur valoriser un peu plus les belles actions, les bonnes actions. Je suis plutôt dans ce qui va pas. Du coup, peut-être avancer un peu plus là-dessus, comme je suis un peu comme ça, voilà. Mais non, je pense que je suis moi-même. J'ai un adjoint qui me complète bien parce qu'il est un petit peu plus sanguin que moi, du coup. Donc voilà, on se complète assez, mais non, non, je suis moi-même, hein, je crois.
Est-ce qu'il y a des entraîneurs ou qui t'inspirent?
Eh bien, je vais revenir sur celui qui m'a beaucoup inspiré, c'est Philippe Germain. Et d'ailleurs, j'essaie dans ma manière de fonctionner de me rappeler un peu comment il s'occupait de nous à l'époque. Et après, non, c'est vrai que je regarde tout, moi. C'est-à-dire que ce soit garçon, fille, tous les entraîneurs peuvent me passionner. Je pense qu'on a toujours quelque chose à tirer d'un entraîneur ou d'un autre. Et même le plus grand des entraîneurs, à mon sens, il a toujours quelque chose à aller chercher chez un autre aussi. Je pense qu'on se nourrit de tout ça. Te dire que j'en ai un précisément aujourd'hui, non. C'est plus avant dans ma carrière de joueuse que j'en avais, entre guillemets. Du coup, c'est plus de cela que je m'inspire aujourd'hui. Après, évidemment, si pour donner un exemple, moi, Pablo Morel, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a marqué aussi à un moment donné mon passage. Quand il était ici Paris et ce qu'il a fait aussi derrière, ça marque bien l'état d'esprit qui veut véhiculer. C'est quelque chose qui me ressemble un peu aussi. Donc c'est quelqu'un de Pablo, c'est quelqu'un aussi de perfectionniste et c'est quelqu'un qui, ouais, son parcours m'inspire beaucoup. Donc si j'avais on va dire un nom à donner, c'est celui-là.
Ça marche, très bien.
La nouvelle génération.
Ouais, bah, il faut bien compter sur moi. Pour finir, est-ce que tu as une suggestion à me faire pour un prochain épisode de Round Papers, un sujet ou une invitée ou un invité possible?
Alors, faut que tu me donnes un petit temps de réflexion.
Prends-le.
Non, franchement, franchement, c'est super ce que tu fais. Tu as déjà eu plein de sujets super intéressants, mais peut-être que. Ben, tu vois, on parle de l'entraînement, on parle de tout ça, mais peut-être. Moi, j'aime encore une fois travailler avec les gens, j'aime collaborer, j'aime échanger. Et je me dis que d'avoir le point de vue peut-être d'un entraîneur qui est un peu pas caché par le numéro un, mais un entraîneur adjoint qui d'avoir tu vois, un point de vue d'un entraîneur adjoint, je pense que ça peut être intéressant de voir comment il se situe dans ce rôle-là, comment il collabore avec son numéro un, quelle relation il peut avoir avec lui, comment ça se passe, comment ils se répartissent les tâches, etc. Comment il fait le lien, lui, entre les joueuses et ce numéro un. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans. Je pense que ça peut être intéressant, du coup, d'avoir un sujet là-dessus. Encore plus, peut-être, je sais pas, sur des. Pas des équipes, des grosses écuries, mais des équipes un peu plus. Sans parler de nous, hein, de Plan Cuq, mais. Des équipes qui jouent par exemple beaucoup, tu sais, des Coupes d'Europe, Ligue des Champions qui enchaînent, c'est là où il y a encore plus, à mon avis, de travail, d'échanges, de choses à faire. Voilà, je trouverais ça peut-être intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait,
Non, je ne l'ai
évoqué.
jamais fait et je trouve ça très intéressant en effet. Parce que justement,
Voilà.
le coach adjoint, je pense que des fois, il fait un peu le rempart entre le coach numéro 1 et les joueurs et les
Ouais, c'est
joueuses.
ça.
Ok,
Ouais,
super.
c'est. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui, au final, il est aussi important que le numéro un. Enfin, moi, je veux dire, je l'ai vécu ici, sans. Mais pour revenir sur Pablo, c'est lui qui faisait tous les entraînements, et c'est lui qui mettait toute la tactique en place, et avec l'échange avec Arnaud, bien sûr, mais c'est lui qui avait pour moi. C'était presque lui le numéro un à ce moment-là, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, comme sujet.
Alors voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant à l'adresse mail onpaperspodcast@gmail.com ou vous pouvez me faire des retours aussi sur Instagram à @onpapers. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la musique du podcast est réalisée par la chanteuse Elia. Vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi à elia.musique avec un C. N'hésitez pas à la streamer partout, la musique en a besoin. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine.